Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le mercredi 5 juin, je suis accompagné comme chaque matin par celles qui sont à cette émission, ce que les capres sont au steak tartare, un ingrédient essentiel, structurant. Céline Dacosta et Eva Rock sont à mes côtés et on va tout de suite voir si Eva est mieux lunée qu'hier ou son bonjour nous avait filé une sacrée patate.
Bonjour à tous.
Non mais... mais Eva,
c'est pas moi,
mais
ça.
C'est vous, vous savez ce que je vous dis ?
Hey, lâche pas la patate, mon nez !
Mercredi 5 juin, nous pouvons dégainer notre plus belle bougie musicale. Car c'est l'anniversaire d'un ancien d'Europe 1, un ami fidèle qui a fait les belles heures de cette station, j'ai nommé Guy Carlier.
Quand je pense qu'à 25 ans, on allait en boîte, la bite à la main.
Oui, 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 joyeux anniversaire Guy, c'est loin tout ça, 70 ans. Finalement, Eva Rock et Céline Dacosta, vous êtes aujourd'hui auprès de moi, ces dignes remplaçantes, l'occasion de vous exprimer encore et toujours mon profond respect et l'incommensurable admiration que j'ai pour votre travail, même si je le fais déjà au quotidien, non ?
Qu'est-ce que tu ferais sans nous ?
Bah, je ferais une émission sérieuse.
J'essaie de me forcer parfois à faire un petit compliment, mais ça n'aboutit jamais. Bon, Eva, une question pour nos auditeurs.
Bah, d'après vous.
Quoi ?
Bah, c'est l'occasion de fêter un bon anniversaire à Guy Carlier.
Ah, c'est pour
Guy
tout.
Et à partir de ça, quel est l'humoriste ou l'auteur qui a la plus belle plume selon vous ? Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oh oui, on pense très fort à notre Guy tout. Mais le 5 juin, ce n'est pas que l'anniversaire de Guy Carlier, c'est aussi la journée mondiale de l'environnement.
La pollution, ce n'est pas bon.
Et on ne le dira jamais assez, chaque petit geste compte afin de prendre soin de notre chère planète, consommer de saison, réduire les déplacements en voiture, économiser l'eau, éviter les bains, la chasse d'eau à laquelle on peut trouver des alternatives.
Oh, je vais faire pipi, tiens.
Comment ? Laissez la lumière, s'il te plaît.
Non, mais pas en studio. Utilisez les toilettes sèches, c'est ça l'alternative. Bon, bonne journée mondiale de l'environnement. Un mot de la météo plutôt, Céline ?
Ah ben, pluvieuse sur tout l'ouest du pays, encore du soleil sur l'est. Et vous allez voir que côté température, c'est également très bas sur l'ouest et très élevé dans l'est. Gros contraste cet après-midi.
Et nous, on est au milieu ?
Nous, on fait pas. Alors aujourd'hui, non, on fait partie de l'Ouest.
D'accord.
Merci, on sera sous la pluie. Pour être tout à fait complet, signalons également aujourd'hui la journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. En effet, certaines espèces, vous le savez, disparaissent. La consommation de certains poissons, comme le thon rouge notamment, fait toujours débat. Que vous le mangez cru ou cuit, vous feriez mieux de réfléchir à deux fois avant de commander du thon rouge. Oui, la biodiversité s'étiole et c'est toute la chaîne alimentaire. Oui, Céline ?
C'est pas facile, poisson cru, poisson cuit, si tu le dis rapidement.
Merci pour cette intervention. Vous écoutez l'émission qui traite l'info et l'humour avec un seul mot d'ordre, l'élégance.
Je t'ai mis la chronique dans le...
Dans le quoi ?
Le bon goût, toujours le bon goût de vous les copains. C'est parti, bravo les filles.
Nous sommes le mercredi 5 juin, merci d'avoir choisi Europe 1. Et excellent réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 5 juin, c'est évidemment avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
D-Day, J-1, mais dès aujourd'hui, début côté anglais des célébrations du 75e anniversaire du débarquement. 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn, les conclusions d'un audit interne mené par Renault et Nissan. La marque aux losanges envisage de poursuivre son ancien patron. Et puis les fans de tennis ont leur demi-finale rêvée de Roland-Garros. Nadal Federer, vendredi.
Europe 1.
Les honneurs aux héros. Les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement démarrent aujourd'hui. Côté anglais, cérémonie internationale. La reine d'Angleterre, Donald Trump, Justin Trudeau, Angela Merkel et Emmanuel Macron, notamment réunis à Portsmouth. C'est de ce port du sud de l'Angleterre que la flotte alliée s'est rassemblée en 1944 avant de traverser la Manche. Le reportage d'Anaïs Cordoba.
Face à la jetée, Ifan, qui redécore toute la terrasse de son pub aux couleurs de l'Union Jack, finit d'accrocher les derniers fanions.
Nous offrons une pinte à tous les vétérans sur présentation de leur médaille. Et nous sortons aussi une nouvelle bière à 2,8% d'alcool que l'on a nommée Juno, d'après le nom d'une des plages du débarquement.
Aux côtés de la reine et des chefs d'État, 300 vétérans du débarquement allié vont assister à la cérémonie. Certains de ces anciens soldats arrivés en Normandie il y a 75 ans raconteront leur expérience. Pour Mick, ce sera un grand moment d'émotion. Le 6 juin 1944, son père, âgé de 23 ans, quittait Portsmouth pour débarquer sur la plage française de Sword Beach.
Le mot qu'il a toujours prononcé pour décrire le débarquement sur les plages normandes, c'était « enfer ». Juste des soldats qui s'effondraient morts partout et la difficulté de sortir de la plage.
Pour clore la cérémonie, 4 coups de canon seront tirés par un navire de la Royal Navy et 25 avions de la Royal Air Force survoleront la jetée. Portsmouth, Anaïs Cordoba. Cordoba, Europe 1.
Et suite demain des cérémonies, point d'orgue 11h au cimetière américain de Colville-sur-Mer dans le Calvados. Près de 12 000 personnes, dont 160 vétérans, sont attendus.
Europe 1, il est 5h02.
Un adolescent était toujours hier soir dans un état préoccupant à l'hôpital de Lille après un arrêt cardiaque. Lui et plusieurs amis de son club de foot ont été frappés par la foudre hier soir alors qu'ils s'entraînaient. Cela s'est passé à Saint-Nicolas-les-Arras dans le Pas-de-Calais. Une vingtaine d'autres jeunes et un éducateur ont été choqués mais sont hors de danger. L'entraînement a été maintenu alors que Météo France avait placé hier le Pas-de-Calais en vigilance orange aux orages. Des alertes levées ce matin. Le bio est-il si sain que cela ? Pas si sûr, si l'on en croit cette enquête de 60 millions de consommateurs, 130 produits bio analysés parmi les plus courants. Le lait bio et les œufs notamment contiendraient des perturbateurs endocriniens absents du lait et des œufs issus de l'élevage conventionnel parce que par exemple, les poules en bio peuvent sortir picorées proches de champs eux-mêmes pollués. Ce n'est pas le cas des volailles de batterie. Les détails, vous les entendrez dès le début du journal de 5h30.
Renault envisage de poursuivre Carlos Ghosn.
Après les résultats d'une enquête interne demandée par les patrons de Renault et Nissan, l'audit met au jour 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn, Emmanuel Dutheil.
11 millions d'euros de dépenses non justifiées, voilà ce que l'entité indépendante chargée d'enquêter sur le train de vie de Carlos Ghosn a trouvé au niveau de la structure qui chapeautait jusque-là Renault-Nissan. Une structure un peu opaque, basée aux Pays-Bas. La liste des dépenses est relativement longue, on y trouve des voyages en jet de l'entreprise, à but semble-t-il non professionnel, des dons assez étonnants à des associations. Renault parle aussi de montres Cartier ou encore d'invitations personnelles au Festival de Cannes. C'est la confirmation de ce qui avait commencé à sortir ces derniers temps. Il a fallu en tout cas plusieurs semaines pour mener cet audit. Ça a été très difficile de tirer les fils. C'était un peu une boîte noire, reconnaît un proche du dossier. Alors maintenant, Renault et Nissan envisagent de transmettre ces informations à la justice néerlandaise, ce qui va encore compliquer le cas de Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault est toujours en liberté, très surveillé au Japon. Il ne peut toujours pas, par exemple, voir sa femme.
Emmanuel Dutheil. Et par ailleurs, on apprend que le parquet national financier a ouvert une enquête qui vise Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, et le criminologue Alain Beau pour des contrats suspects avec la filiale néerlandaise de Renault-Nissan. Justement, Rachida Dati aurait notamment perçu 600 000 euros entre 2009 et 2013. C'est une actionnaire de Renault qui a porté plainte en avril pour abus de biens sociaux et corruption active et passive.
La politique et Gérard Larcher tentent de prendre la main à droite.
Le président du Sénat annonce une convention nationale de la droite et du centre pour octobre prochain, trois jours après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains. Gérard Larcher a réuni hier à Paris plusieurs figures, Christian Jacob, Bruno Retailleau, Hervé Morin. La droite fait cap sur les municipales pour espérer se relever. Et puis on manque de sang frais en France. Les réserves sont à leur plus bas niveau depuis 8 ans avec seulement 85 000 poches disponibles de globules rouges. Elles sont en réserve. L'établissement français du sang appelle les donneurs à donner avant même la journée mondiale des donneurs de sang. C'est vendredi de la semaine prochaine.
Merci Jérôme. Et puis l'été arrive. On m'a dit que vous étiez allé à la salle de sport hier. Je vous entendais en parler dans le couloir.
Bilan, 4 blessés et une belle frayeur.
Bon, non, ne faites plus de sport, c'est trop risqué. Parlez-en plutôt, c'est plus simple, on passe au journal des sports. À la une, les fans de tennis en rêvaient. Roland Garros l'a fait.
Roger Federer contre Rafael Nadal. La demi-finale attendue dès le tirage au sort du premier tour. Il y a 2 semaines, on vous en avait parlé. On avait vu que si ces deux cadors gagnaient tout.
Ça aurait pu être Gaël Monfils contre Benoît Paire, par exemple.
Est-ce qu'ils auraient pu
statistiquement
se rencontrer ? C'est drôle, ça.
Oui, c'est bizarre de penser ça directement dès le début.
On avait vu que ces deux-là pouvaient se croiser au moment du dernier carré. Le Suisse et l'Espagnol qui arrivent tous deux en forme. Nadal s'est qualifié en balayant le Japonais Nishikori en 3 manches. Hier, Federer a écarté son compatriote Wawrinka en 4-7, perdant une manche pour la première fois depuis le début du tournoi. Alors pour Federer, qui est de retour cette année à Paris après 3 éditions d'absence, Nadal et ses 11 victoires à Roland-Garros, c'est le test ultime. Le Suisse ne sera pas favori.
Je vais essayer mon maximum. Je sais que c'est pas gazon, c'est pas dur, c'est pas où, juste si je sers bien, je peux le mettre en difficulté ici. C'est vraiment beaucoup plus. Il faudra voir, parce que jusqu'à là, maintenant, il était rouleau compresseur, alors c'est forcément pas un match évident à jouer.
Et ce 39e Nadal Federer de l'histoire, ce sera vendredi après-midi, on ne sait pas encore à partir de quelle heure, ce sera leur 6e face-à-face à Roland-Garros. Et pour l'instant, 5-0 pour Nadal, dont 4 lors de finale.
Côté dames, les jeunes sont aux commandes.
Oui, la jeune tchèque Markéta Vondrouzova, 19 ans, s'est qualifiée hier pour une demi-finale en écartant la croate Martic. Aujourd'hui, on suivra en quart la jeune américaine Amanda Anisimova, 17 ans, face à la tenante du titre Simona Halep. Également aujourd'hui, les deux derniers quarts de finale, messieurs Djokovic-Zverev et Tim Kachanov.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
11, les basketteurs de Villeurbanne, ceux du président Tony Parker, sont sur une série de 11 victoires d'affilée. Hier, ils ont battu à domicile Nanterre, 82-70, lors du match numéro 2 de leur demi-finale. Villeurbanne mène 2 victoires à 0 dans cette série, à l'issue de laquelle la première équipe arrivée à 3 victoires se qualifie pour la finale. Possible match de la qualification pour Villeurbanne vendredi soir à Nanterre, lors du match 3.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h07, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre célèbre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie, on y a tous déjà pensé. Après avoir vu un reportage dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur les confectionneurs de pantoufles en rotin dans le Jura. Mais franchir le pas, c'est autre chose. Et tous les matins, dans Fallait Oser, on donne justement la parole à celles et ceux qui ont cet insensé courage de changer de vie. Rencontre ce matin avec Thomas Fourniret, un ancien programmateur informatique qui vit maintenant de sa passion. Il fait des dessins animés pour des studios de cinéma.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Oui, ma chère Céline, et nous faisons un point sur la météo. Le soleil brille, il brille,
oui.
mais à l'est. Hein.
Exactement, et surtout ce matin, car ça va se gâter cet après-midi, devenir orageux. Seul un petit quart sud-est va conserver du soleil. Sud-est, la région PACA et la Corse. Pour l'ouest, en revanche, ça sera nuageux et pluvieux toute la journée, avec quelques coups de tonnerre encore possibles par endroits. Les températures baissent sous la pluie cet après-midi. 15 à 19 degrés, il en fera 17 à Paris, contre 28 hier. Par contre, là où le soleil résiste sur l'est, ça reste bien chaud. 25 à 33 degrés en moyenne pour cet après-midi.
Merci Céline. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'un camarade.
Oui, il a écrit ça.
Y a pas que les grands qui rêvent.
Il n'a pas écrit que ça, mais non. C'est vrai qu'il l'a écrit.
Interprété par votre amoureuse Juliette Armanet, Mathieu Noël.
C'est une magnifique version.
Guy Carlier a 70 ans aujourd'hui. À cette occasion, on voulait savoir quel était l'humoriste ou l'auteur qui avait, selon vous, la plus belle plume. Et bien sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, vous êtes déjà nombreux à nous répondre. Jérôme nous dit par exemple Stéphane de Groot quand il était sur Canal+. Mm-hmm. Stéphane de Groot qui revient souvent dans les commentaires, comme Isabelle qui a été fascinée par cet homme, mais aussi par Raymond Devos avant. Et puis Taco qui nous dit qu'elle est monomaniaque, des auteurs du 19e. Elle est amoureuse de Sand et de Musset. Ce sont ces auteurs qu'elle préfère. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui vous informe, qui vous divertit, qui vous cajole, mais aussi qui vous interloque. Notamment grâce à Fallait Oser, séquence pendant laquelle nous partons à la découverte d'un homme ou d'une femme qui un jour a eu le cran de changer de vie. Aujourd'hui, il s'agit de Thomas. Il a 36 ans, il vit à Péranchy, près de Lille. Et après avoir été programmateur informatique pendant 2 ans, il a choisi de se tourner vers une carrière plus artistique. Passionné par la réalisation et le dessin, il travaille désormais pour un studio de cinéma.
Fallait Oser.
J'ai toujours souhaité réaliser des films. Enfin, j'étais passionné de cinéma. Petit à petit, enfin, je me suis dit qu'il fallait le faire tôt ou tard. Et j'avais des bases de dessin vu que je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune. Dans ce travail où j'étais informaticien, vu que je travaillais à distance, j'avais pas mal de temps libre où je pouvais occuper mes mains à dessiner. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais réaliser un film en dessin animé puisque c'était beaucoup plus simple pour moi de réaliser un film avec des dessins animés qu'en achetant une caméra, en demandant à des acteurs, en trouvant des lieux pour faire un tournage. Quoi.
Alors ça a plutôt mal commencé pour Thomas qui a d'abord raté le concours d'entrée dans l'école qu'il visait.
Et puis finalement il a réussi, il a trouvé un job dans un studio d'animation. Il réalise également des séries animées pour la télé mais aussi des clips. Et Thomas se perfectionne tous les jours et s'épanouit dans ses nouvelles fonctions.
C'est chouette, on n'a même pas l'impression qu'on travaille puisque c'est vraiment une passion avant tout. C'est vrai que se lever tous les matins, travailler même jusqu'à point d'heure pour être au niveau, j'ai envie de dire, puisque moi j'avais pas ce bagage justement que les étudiants ont qui sont déjà formés, donc je travaillais peut-être un peu plus, je comptais pas mes heures et c'était avec plaisir puisque c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Mais dans tous les cas, oui, c'est quand même magique de pouvoir travailler dans un domaine qui nous passionne, quoi. C'est sûr que c'est super.
Alors Thomas aimerait bien réaliser un film si l'occasion se présente. Il en avait déjà conçu un au début de sa carrière, mais rien de presse. Pour l'instant, il aime le travail collectif du studio.
Et si vous aussi, vous avez changé de vie, comme Céline Dacosta, par exemple, qui va bientôt devenir chanteuse,
tout à
vous
fait.
Nous écrivez sur Twitter.
C'est bien parti. Elle risque de rater son examen d'entrée, comme Thomas. Hein.
Mais non, moi je crois en elle.
Merci,
d'accord, très bien.
Vous croyez pas en elle?
Mais écoutez, au moins, on est 1 sur 2.
Voilà,
ouais, c'est
voilà.
Déjà pas mal.
Europe 1.
5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains. Et aujourd'hui, 5 juin, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler. C'est l'anniversaire de la chanteuse Cécilia Cara, interprète de Juliette dans la comédie musicale à succès Roméo et Juliette. Qui n'a jamais chanté cette chanson à 3h du matin lors d'un karaoké improvisé? L'occasion de nous de réécouter l'analyse littéraire de Céline Dacosta concernant l'œuvre de William Shakespeare. Roméo et Juliette donc.
Roméo et Juliette. Mourir par amour, par désespoir d'être séparé de la personne aimée, c'est magnifique.
C'est un peu la loose quand même.
Merci, merci Céline. Prochaine rubrique littérature demain, même heure. À suivre, le mouvement Gilets jaunes s'étant essoufflé. Vous n'avez plus, ne savez plus de quoi parler avec vos collègues à la machine à café. Écoutez mercredi les bons tuyaux, notre rendez-vous culture et nouvelles technologies. Vous y trouverez les infos nécessaires pour combler tous les blancs embarrassants. On parlera notamment de la Palme d'Or à Cannes, que je ne vous conseille pas, que je vous ordonne tout simplement d'aller voir. Et puis Céline.
D'un coup, on sent une violente odeur.
Oui, le docteur Ichou nous rejoindra. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas nettoyé sa blouse. Mais il a une bonne nouvelle ce matin. Désormais, il existe un logiciel plus doué que les médecins pour détecter les cancers du poumon. Mais avant cela, regardez-vous dans le miroir. Tapez-vous le torse tel un singe. Prenez une brosse à cheveux et une courge en guise de micro et laissez-vous porter. Voici Help, les Beatles sur Europe 1. I need somebody help. Help des Beatles sur Europe 1. Alors vous me dites pourquoi des Beatles? Eh bien j'ai envie de vous répondre pourquoi pas, mais surtout parce que samedi, si vous êtes en région parisienne, Europe 1 met en vente plus de 25 000 vinyles de sa discothèque rock, jazz, chansons françaises, musique classique. Alors venez faire des bonnes affaires à la mairie du 15e. Inscrivez-vous sur europe1.fr.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn. Les conclusions d'un audit interne mené par Renault et Nissan. La marque aux losanges envisage de poursuivre son ancien patron. Les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement démarrent aujourd'hui. Côté anglais, cérémonie internationale. La reine d'Angleterre, Donald Trump, Angela Merkel et Emmanuel Macron notamment réunis à Portsmouth. C'est de ce port du sud de l'Angleterre que la flotte alliée s'est rassemblée en 1944 avant de traverser la Manche. Enfin, on manque de sang frais en France. Les réserves sont à leur plus bas niveau depuis 8 ans. Avec seulement 85 000 poches de globules rouges en réserve. L'établissement français du sang appelle les donneurs à donner avant même la journée mondiale des donneurs de sang vendredi de la semaine prochaine.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 5 juin. Et à nouveau, Céline, vous le constatez.
D'un coup, on sent une violente odeur.
Et oh oui, c'est le moment de filer sur l'hippodrome de Laval, retrouver notre expert hippique Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Laval. Et mon pari gagnant sera le 110 Dream de la Serie. Dans cette 6e étape de ce grand national du trot, il trouve ici une occasion idéale de prendre le commandement de ce Tour de France des trotteurs. En effet, en l'absence de certains de ses adversaires, notamment Bachar, l'actuel maillot jaune, il lui suffit simplement de s'imposer pour passer en tête dans ce GNT. Entraîné et drivé par Romain Derieux, qui ne cesse d'engranger les victoires, ces deux-là me semblent être incontournables. Alors notez bien, pour cet après-midi à Laval, réunion 1 dans la première course, le numéro 10, Dream de la Serie.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et vite, vite, lubrique petits auditeurs, ouvrons votre séquence favorite, celle du pressing où vous découvrez chaque matin la bave aux lèvres, les coulisses de notre colocation. Et ce matin, réjouissez-vous, nous allons parler d'amour. Oui, qu'on parle de libertinage décadent ou d'amour, ici c'est la même musique. Effectivement, effectivement, nous parlons d'amour car Jérôme Lacroix, notre GG à nous, est amoureux.
Je suis comme une moule accrochée à son rocher.
Comme c'est chou, c'est très mignon. L'heureux élu s'appelle Anne-Corinne. C'est bien ça Jérôme, Anne-Corinne, c'est original, écoutez.
Une coco-nana.
Oui, très très bien, c'est mignon. Mais alors Jérôme nous a présenté sa coco-nana, sa Anne-Coco, sa douce, sa précieuse. Il l'a invité à prendre un apéritif au sein de la colocation afin de nous la présenter. Les verrines surgelées étaient installées et les griffes de Céline Dacosta et Varrock étaient aiguisées. Telles des hyènes, par possessivité et surprotection envers leur amie, sans doute elles attendaient la victime sur le canapé. Jérôme, lui, était en cuisine la plupart du temps afin que nous apprenions à découvrir Anne-Corinne indépendamment de son influence. Ah, c'est elle. Allez ouvrir, Céline. Bonjour. Céline, parlez-lui.
Vous voulez un chewing-gum
Anne-Corinne. Elle s'appelle Anne-Corinne. Mais ça ne peut pas être votre premier échange, Céline. Vous avez été éduquée où? Cessez de vous boucher le nez quand vous lui proposez un frident. C'est insultant. Asseyez-vous, Anne-Coco. Très vite, afin de gagner des points, la future Madame Lacroix tenta de s'intéresser à notre joyeuse bande. Elle posa des questions sur nous, Europe 1, l'émission, nous demanda, en toute logique, si des horaires très matinaux comme les nôtres n'étaient pas compliqués à gérer. Céline lui répondit avec simplicité et humilité.
Arrête, c'est la rançon de la gloire.
Redescendez, Céline. C'est super arrogant. Eva, qu'est-ce que vous faites avec cet album photo? Mais c'est une photo de Jérôme ivre-mort sur le canapé avec écrit au feutre sur le front My name is Anaconda. Vous ne pouvez pas lui montrer ça, elle va fuir. Dites quelque chose de Jérôme qu'elle ne sait pas, quelque chose de mignon, valorisant. Jérôme, pour nous, c'est...
célibataire, qui pense beaucoup au sexe, adore boire du vin.
Bon, les filles, alors ça suffit, ça suffit. Posez-lui des questions à cette bonne Anne-Corinne. Intéressez-vous.
245 grammes
23 centimètres.
Mais pas sur l'anatomie de Jérôme, vous êtes folle.
Oh, il a un gros cul. Hein.
Bon, arrêtez. Céline, dites quelque chose de sympa.
Elles sont belles tes bottines. Hein.
Ah voilà, c'est bien.
On est d'accord qu'elle est fan de d'Amy Winehouse, oui. Pour, au niveau coiffure, au niveau des dents aussi. Ouais, des dents. Ouh là là, ouais, elle a les mêmes. Hein.
Ah oui, mais elle est devant vous, elle vous entend. Attendez qu'elle aille aux toilettes au moins. Bon, tiens, elle s'est connectée à l'enceinte. Elle veut peut-être nous mettre une chanson, détendre l'atmosphère. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle est à l'aise. Mais Eva, lâchez-la, vous lui faites une clé de bras.
C'est toi qui as mis Angèle ?
Mais vous êtes dingue, vous lui avez mis un coup de poing. Jérôme, venez, Anne Coco est à terre, Eva l'a frappée.
C'était un peu brut de décoffrage.
Mais vous pensez ? Bah regardez, elle part. Rattrapez-la, Jérôme.
Je vous embrasse, Monique.
Anne-Corinne qu'elle s'appelle. On a passé 2 heures ensemble. Bon, j'en peux plus, vous êtes récupérable, on passe au fait. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens ce matin. Oui, bah, je vous imagine très bien. Je m'en ai déjà fait une fois. Il est question d'argent. Le Figaro, par exemple, s'interroge. Faut-il s'inquiéter des taux d'intérêt historiquement bas ? La réponse semble contenue dans la question. Sujet sensible à la une du Parisien, immigration, le vrai coût des expulsions. Et Libé qui pose une question, inégalité en France, qui sont les riches ? Mais vous, mes intenables garnements, qu'avez-vous trouvé dans la presse du jour, Eva ?
Eh bien, on repart dans le Figaro pour un reportage étonnant qui est intitulé « Le Vietnam à la baguette ». On apprend ainsi que l'habitude de consommer du pain importé par la France est vivace au Vietnam. Il y a 20 ans, par exemple, était créée à Hue l'école La Boulangerie Française. Alors, les débuts de cette école avaient été modestes. Hein. Une poignée d'élèves issus de milieux défavorisés ont essuyé les bancs de cette école un peu fragile. Mais les premiers résultats vont être très rapidement encourageants. Les échanges avec la France se sont multipliés, par exemple. Puis des Vietnamiens deviennent à leur tour formateurs. Et c'est ainsi qu'en 2006, la boulangerie française donc, va ouvrir aussi une boutique en plus de cette école. On y trouve du pain, des viennoiseries, des pâtisseries maison comme des chaussons à la mangue ou à la banane. En 20 ans, 90 étudiants sont ainsi formés, 95% ont décroché un emploi. Le plus souvent, c'est dans un hôtel 4 ou 5 étoiles et 12 d'entre eux ont ouvert leur boulangerie. Et bien en 2017, rebelote, nouvelle école à Ho Chi Minh-ville, alors dans des locaux beaucoup plus modernes, très bien équipés. Beaucoup d'élèves, dont 60% de filles, appartiennent aux minorités souvent recluses dans des villages oubliés. Cette école, soutenue par l'Agence française du développement, devient en fait une chance, hein, celle d'un avenir meilleur, à la fois pour les étudiants et pour leurs familles également. L'enseignement y est strict, hein, respecter un cadre, les horaires, une hygiène, ce sont vraiment les fondamentaux, mais ce que vous apprenez aussi en France. Et puis du côté des boutiques, eh bien, la boulangerie française, elle veut promouvoir aussi un pain de qualité, logique, alors blé importé de France, beurre étiqueté paysan breton, les crémières de France, et puis des ingrédients comme le chocolat et les fruits qui sont eux locaux. L'objectif désormais, c'est de continuer en fait à développer ce réseau d'écoles et de boulangeries alors ailleurs, hein, Maroc, Tunisie ou Madagascar. L'occasion de montrer à quel point la boulangerie française est aussi une French touch.
Qui fait rêver le monde.
French touch, c'est dur le matin.
French touch.
52.
C'est
French
pas mal.
Touch.
Bien joué, Eva.
À lire dans Figaro.
Ah oui, c'est important,
oui,
de le signaler.
Bah, oui.
Et Céline Dacosta.
Oui, alors vous en parliez tout à l'heure, Mathieu. Aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. Eh bien, je vais rester dans le thème, puisque samedi, c'est la journée mondiale de l'océan. L'occasion pour aujourd'hui en France de nous rappeler à quelques semaines des grandes vacances comment on peut agir chacun à notre niveau pour préserver ce qui représente quand même 70% de la surface de la planète. Un article qui s'appelle, j'ai beaucoup aimé le titre, Respecte ta mère. Alors, on apprend dans cet article que de plus en plus de personnes vivent près de la mer, à tel point qu'elles souffrent déjà de surpopulation, et on estime que d'ici 30 ans, les 3/4 de l'humanité vivront sur les bandes littorales. Autre constat, la mer étouffe à cause du plastique, ça on le sait, avec plus de 8 millions de tonnes qui finissent au large. Tout ça est inquiétant, mais chacun peut à son niveau se retrousser les manches et faire des petits gestes qui, mis bout à bout, pourront avoir un impact pour préserver nos mers. Comme par exemple, surveiller sa consommation de poissons. On parle toujours des saisons pour les fruits et légumes, jamais pour les poissons. Eh bien, on peut aussi manger de saison pour les poissons. En ce moment, on va préférer la dorade grise, par exemple, ou le hareng au cabillaud. On tente de réduire sa consommation. C'est aussi la saison de la moule.
Moi, je passe
Joker. Ah non, c'est bon, le hareng.
Non,
ah
c'est bon.
Oui, oui.
Parce que vous pensez au hareng fumé.
Et moi, je me commanderai un Big Mac.
Ouais.
On continue.
Oh. Bon, j'ai précisé quand même, et personne n'a écouté, que c'était aussi la saison de la moule. On tente de réduire sa consommation de plastique.
Vous avez bien fait de le préciser, Steve.
Parce que seulement un quart est recyclé. On fait aussi attention aux produits de beauté, qui là aussi contiennent du plastique, avec des noms comme polypropylène, par exemple. On vire les lingettes, les cotons, et on fait aussi attention à ces produits détergents qui vont polluer les cours d'eau. Avant de finir, je vous donne en mille dans les
océans.
Et puis, quand on sera sur la plage cet été, on va préférer la crème solaire bio. C'est mieux pour votre peau, mais aussi pour l'océan et les micro-organismes qui s'y développent. Attention aux mégots, pensez à prendre un cendrier portable ou à arrêter de fumer.
Ah, ça, c'est mieux, en fait.
Et tout ça, et bien plus encore, avec une interview de celle qui a été nommée Madame Classe de Mer par le ministère de l'Éducation nationale, Maude Fontenoy. C'est à lire dans Aujourd'hui en France.
Passionnant. Merci beaucoup, Céline. Jérôme, qui a déjà réservé ses plages chez Léon de Bruxelles pour fêter la saison de la moule. Jérôme, qu'est-ce que vous avez choisi dans la presse pour nous
j'aime
aujourd'hui.
Bien. J'avoue, j'aime bien.
Non, je sais que vous aimez bien mon grand jeu. Et je crois que nos auditeurs le savent bien à ce stade de la saison. Hein. On est le 5 juin.
Des embouteillages ce matin. En une, des embouteillages en une de plusieurs titres de la presse régionale à Lyon. On perd 5 jours par an dans les bouchons, écrit Le Progrès. Toulouse, 8e ville la plus embouteillée de France, assure la Dépêche du Midi. 6 jours perdus dans les bouchons à Paris, c'est le titre d'un papier d'aujourd'hui en France. Parce qu'aujourd'hui sort le classement des villes françaises les plus embouteillées. Alors sans grande surprise, numéro 1,
Paris.
150 heures perdues dans les bouchons en 2018, soit un peu plus de 6 jours, une semaine, hein, 2. Marseille et Bordeaux, 146 heures, c'est pareil, un peu plus de 6 jours. Ensuite viennent Grenoble, 143 heures, puis Nice, Lyon, Nantes, Toulon, Lille et Strasbourg. C'est une étude réalisée par TomTom, les GPS, grâce justement aux données GPS recueillies auprès des utilisateurs. Alors si on rentre plus dans le détail, les zones les plus embouteillées ne sont bien souvent pas celles que l'on croit. Ce ne sont pas les périphériques. Par exemple, à Paris, c'est le quai des Tuileries, en plein centre-ville. À Lyon, c'est la rue de l'Université ou la rue Gambetta, nous dit Le Progrès. Alors, à quelles heures est-on le plus coincé? Ben, c'est le matin à chaque fois, entre 7h et 8h.
Oui.
Plus 71% de bouchons à Paris. Alors là, le temps, c'est 21 minutes en plus en moyenne par demi-heure. C'est-à-dire que sur une heure, c'est 42 minutes de retard. Même retard à Toulouse. À Lyon, Le Progrès se veut encore plus précis. Le pire, c'est les lundis, les mardis et les jeudis matins entre 7h et 8h. Et on perd à peu près autant de temps le soir en revenant du travail à partir de 17h. À noter, au niveau mondial, Paris, par exemple, est classée seulement 41e ville la plus embouteillée au monde. Le top 5, c'est Bombay.
Shanghai.
Alors non, il n'y a pas Shanghai, il y a Bombay en premier, où un seul créneau entre 3h et 5h du matin n'est pas un théâtre d'embouteillage. Voilà.
C'est bon à savoir.
Bombay suivi... Bombay suivi de Bogota, Lima, New Delhi et Moscou. Les embouteillages...
Moscou ?
Oui, oui, moi aussi j'étais surpris, il n'y a pas de ville non plus américaine, par exemple, dans ce top 5. Les embouteillages qui augmentent partout, mais pas à Paris, où les chiffres sont stables.
Eh bien, tant mieux. Merci Jérôme, merci à tous. Le pressing de ce 5 juin referme ses portes. Et sachez que c'est un 5 juin, en 1882, qu'a eu lieu l'inauguration du musée Grévin à Paris, un musée où sont exposées les statues de cire représentant des personnalités célèbres, des vedettes. On y trouve notamment, sachez-le, la statue d'un collègue, Nikos Aliagas. Eh oui, lui-même. Jérôme, pourquoi vous prenez la main d'Eva et vous la dirigez vers...
Tu veux toucher?
Mais non, mais arrêtez, c'est le vrai Nico, ça. Il est juste passé en studio déposer ses papiers pour son émission de 7h.
Oh là là, trop dur.
Ah bah ben oui, le vrai aussi, hein, le vrai aussi.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Ça va loin, non, de n'importe quoi, c'est vrai. Oui, debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zelani. Exfoliant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Et nous faisons un point sur la météo de ce 5 juin, un ciel encore agité, Céline.
Oui, avec des pluies bien présentes ce matin des Ardennes jusqu'en Aquitaine. Quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure dans le Limousin. Plus calme, mais bien nuageux dans le nord-ouest avec encore quelques gouttes. Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, là où ça va rester sec et ensoleillé. C'est sur l'est du pays avec un vent bien présent dans le sud-est et dans la vallée du Rhône et les Cévennes. Cet après-midi, ça va rester pluvieux sur une grosse moitié ouest du pays, jusqu'en Île-de-France, aux Ardennes, la Champagne, et puis en descendant vers le Massif central. On aura des orages possibles sur l'est. Le soleil, lui, va résister sur un petit quart sud-est et sur la Corse.
Un mot des températures.
Elles sont un petit peu fraîches ce matin dans le nord-ouest. 8 degrés du côté de Brest. Il en fait 10 à Rennes, 11 à Nantes. Pour les autres, la moyenne va de 13 à 21 degrés. Il en fait 16 à Paris en ce moment. Et puis cet après-midi, ça baisse par rapport à hier, comme prévu après ce passage pluvieux, avec un fort contraste entre l'ouest et l'est. Je vous en parlais tout à l'heure. À l'ouest, la moyenne ira de 15 à 19 degrés et à l'est, de 25 à 33 degrés. La maximale étant pour Strasbourg ou Grenoble aujourd'hui.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au pinacle du divertissement, au summum de l'info, à l'apogée. Oui Eva ?
Embraye bidasse, ça fume.
Oui, vous avez raison, je traîne un peu en longueur. À suivre, mercredi, les bons tuyaux, votre rendez-vous culture et nouvelles technologies avec aujourd'hui des applis pour ne rien rater de la Coupe du Monde du foot féminin qui démarre vendredi et la critique de Parasite, la palme d'or de Cannes qui sort en salle aujourd'hui. Et puis le docteur Ichou nous rejoindra.
Il a des nouvelles de Neymar ou
pas ? Non, mais il a eu vent d'une machine qui détecte mieux le cancer du poumon que n'importe quel de ses collègues. Et ça va intéresser beaucoup plus de gens que la cheville de Neymar.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h30, 7h, Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce 5 juin. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Attention aux montagnes de promesses du bio. Avertissement lancé par le magazine 60 millions de consommateurs. On y trouve notamment des pesticides. Gérard Larcher annonce une grande convention nationale en octobre. Le président du Sénat réunissait de grands noms de la droite et du centre pour évoquer la reconstruction des Républicains. Et puis les cérémonies du D-Day s'ouvrent aujourd'hui à Portsmouth en Angleterre, en présence notamment d'Emmanuel Macron.
Europe 1.
Peut-on vraiment faire confiance aux produits bio ? Pas forcément si on en croit l'enquête du magazine 60 millions de consommateurs qui sort aujourd'hui. Plus de 130 produits bio ont été analysés parmi les plus consommés, lait, fruits, œufs, huile d'olive ou encore gâteaux, avec parfois des résultats pour le moins surprenants, Mélanie Gomez.
Il y a d'abord les produits bio qui n'ont aucun intérêt à être consommés. Dans les chips ou les pizzas bio, certes pas de traces de pesticides, mais autant de gras ou de sel, voire même si on prend la charcuterie bio, autant de nitrites potentiellement cancérogènes que dans la charcuterie classique. Ensuite, la mauvaise surprise vient du côté des œufs et des laits bio. Certes, dans ces produits, pas de pesticides ni de médicaments vétérinaires, mais par contre des polluants comme les dioxines ou les PCB. Et le comble, c'est que ces perturbateurs endocriniens, on ne les retrouve pas dans les œufs et les laits non bio, précise Christelle Pangrazi de 60 millions de consommateurs.
Les vaches et les poules en bio peuvent sortir et picorent à l'extérieur ou broutent de l'herbe. Et en fait, il se trouve que les champs sont pollués en dioxines et PCB. Ce sont des polluants issus des usines. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune distance de sécurité, en fait, aucune distance minimale entre un champ bio et une usine polluante.
Et cette enquête dénonce aussi les dégâts du bio sur la planète. Exemple avec la pâte à tartiner. De plus en plus de consommateurs se tournent vers des marques bio pour échapper à l'huile de palme au final. Beaucoup en contiennent et surtout, cultiver de l'huile de palme bio demande encore plus d'espace, donc c'est encore pire en matière de déforestation.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, résultat retrouvé dans le hors-série de 60 millions de consommateurs qui sort donc aujourd'hui.
Plusieurs adolescents frappés par la foudre hier soir dans le Pas-de-Calais.
Oui, de jeunes footballeurs de 13 à 15 ans qui s'entraînaient sur le stade de Saint-Nicolas, les Arras. Tous se sont effondrés, trois ont dû être hospitalisés. Pour l'un d'eux, le pronostic vital est engagé. Les orages en Ile-de-France en fin d'après-midi hier ont aussi fortement perturbé la circulation de certains trains de banlieue vers l'Oise au départ de la gare du Nord. Toutes les vigilances orages sont désormais levé. Et puis l'affaire Carlos Ghosn, Renault envisage des poursuites contre son ancien patron. L'audit interne mené depuis plusieurs mois par Renault et Nissan au sein de leur filière néerlandaise révèle que Carlos Ghosn a engagé 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Par ailleurs, une enquête préliminaire est ouverte après une plainte contre Rachida Dati et Alain Bauer. Ils auraient bénéficié de contrats avec cette filiale néerlandaise de Renault Nissan. L'ex-garde des Sceaux Rachida Dati aurait reçu 900 000 euros d'honoraires d'avocate entre 2010 et 2012, et Alain Bauer, expert en sécurité, 1 million d'euros entre 2012 et 2016.
Europe 1, il est 5h33.
Les ténors de la droite et du centre réunis hier autour de Gérard Larcher.
Avec à l'ordre du jour la reconstruction après l'échec des Républicains aux européennes. À l'issue de cette réunion, le président du Sénat a annoncé une grande convention nationale en octobre prochain.
Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité pour organiser dès ce mois de juin des conventions régionales, départementales et locales qui s'achèveront par une grande convention nationale en octobre avec l'objectif de proposer une grande alternative aux Français. Et c'est ce soir aussi un appel à tous nos collègues, aux forces vives de ce pays, aux corps intermédiaires, aux associations, pour que cette alternative soit une alternative partagée et qui aille vers l'essentiel, la rencontre et la confiance avec les Français.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudeau.
Les commémorations du débarquement du 6 juin 1944 commencent dès aujourd'hui.
Oui, précisément à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, une cérémonie qui va réunir autour de la reine Elisabeth, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel et Theresa May. Ils assisteront à l'embarquement de 300 vétérans britanniques qui rejoindront la France en bateau. Un pneu increvable, cette innovation vient d'être présentée par Michelin. C'est le premier pneu sans air et donc sans risque de crevaison. Un prototype baptisé Uptis est développé en partenariat avec General Motors, il pourrait être commercialisé en 2024. Et puis Rihanna est désormais la chanteuse la plus riche du monde, et pas seulement chanteuse d'ailleurs, créatrice de maquillage et de lingerie et première femme noire à diriger une maison de couture de luxe. Sa fortune est estimée à 600 millions de dollars, 535 millions d'euros.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani, la Rihanna du News. Une journaliste qui, comme Céline Dacosta, ne laisse jamais rien au hasard. Dans son métier, tout est pensé au millimètre.
Dis Hélène, tu as trop magnifique ta blouse. Et je me demandais, t'as mis quoi en dessous? Parce que comme elle est hyper transparente.
Un soutien-gorge cher.
Bah ouais.
Tout est pensé, les amis. Lui aussi, il a mis son plus beau soutien-gorge cher ce matin. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports.
J'aurai bientôt besoin d'un si je continue à grossir.
Oh, faut pas mettre de choses.
Taisez-vous, on visualise. Jérôme à la une, Paris, épicentre du foot mondial.
Dans deux jours, début de la Coupe du Monde féminine de foot en France. Et depuis hier, le gratin mondial est réuni porte de Versailles pour le congrès annuel de la Fédération internationale, la FIFA. L'Italo-Suisse Gianni Infantino doit d'ailleurs être réélu président. Il est seul candidat, Axel May.
Un congrès annuel de la FIFA à Paris, ce n'est pas une première, mais cela reste un événement. La dernière fois, c'était en 2004, à l'occasion du centenaire de la création de l'instance. Cette fois, c'est juste avant le début de la Coupe du Monde féminine en France. Preuve d'ailleurs de l'importance de l'événement, hier soir, sous la majestueuse verrière du Grand Palais, Emmanuel Macron en personne a prononcé l'allocution d'ouverture de ce congrès. Congrès au cours duquel Gianni Infantino sera réélu tout à l'heure par acclamation pour un mandat de 4 ans. Lui, l'ancien secrétaire général de l'UEFA, que les circonstances ont propulsé patron d'un football mondial miné par les scandales de corruption. 211 associations sont invitées pour réélire Gianni Infantino avant le coup d'envoi vendredi au Parc des Princes du Mondial féminin. Alors oui, jusqu'à la fin de la semaine, Paris est bel et bien la capitale du foot.
Les fans de tennis ont rendez-vous vendredi après-midi, demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal, Roger Federer, le choc des deux cadors. Federer a perdu un premier set dans le tournoi hier en quart de finale face à son compatriote suisse. Wawrinka battu 3-1. Nadal a facilement écarté le japonais Nishikori. Les deux champions s'affronteront pour la 6e fois à Roland-Garros. Nadal a remporté les 5 précédents combats, dont 4 en finale.
Et comme tous les jours cette semaine à cette heure-ci, le portrait d'une joueuse de l'équipe de France féminine de foot.
À deux jours du coup d'envoi en France du Mondial, ce matin l'une des joueuses les plus expérimentées, Élise Boussaglia, 33 ans dont 16 années en bleu, capée, respectée et par ailleurs maîtresse d'école, Simon Rubin.
À 33 ans, Élise Boussaglia est la joueuse la plus sélectionnée des Bleus. Presque 200 matchs. En club, elle a connu Lyon, Paris, Wolfsburg ou Barcelone. Mais surtout, elle représente une sorte d'espèce en voie de disparition à l'heure où le foot féminin se professionnalise de plus en plus tôt. En plus d'être joueuse, elle est aussi institutrice. Et en début de carrière, elle a dû cumuler études, petits boulots et entraînements.
Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de professionnalisme. Donc c'est sûr que j'ai continué mes études pour avoir mon diplôme et puis au début de ma carrière, oui, je travaillais à côté et puis je m'entraînais le soir au niveau du club avec mes partenaires et puis les matchs le week-end. Mais c'est vrai que c'était une vie assez éreintante.
Un parcours inimaginable aujourd'hui. Les joueuses qui débutent se lancent exclusivement dans le football et lâchent pour la plupart les études supérieures. Élise Boussaglia, elle, pense déjà à la suite. Elle arrêtera après le Mondial. Pas mécontente, elle va reprendre sa carrière d'institutrice. Loin de l'ambiance des stades, elle sera capitaine d'une classe de maternelle.
Simon Rubin.
Merci beaucoup, c'était le Journal des Sports de Jérôme Lacroix. Et GG, j'ai pas souvent l'occasion de vous le dire, mais bravo. Parce que vous levez à 1h du mat, lire l'équipe dans les moindres détails passe encore. Mais vous fadez les vannes de Céline derrière chacune de vos brèves. Là, mon gars, je dis chapeau, même si j'en ai pas.
Seulement voilà, il l'avoue d'ailleurs, dans la tête, il a flanché, il a perdu son tennis.
Non, c'est tennis.
Mais non, vraiment, Jérôme, je suis admiratif.
Europe 1.
Voilà, 5h39, voilà. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures placées sous le signe de l'info, de la bonhomie et aussi de la mythomanie.
Moi, il y a Kylian Mbappé qui m'a envoyé un DM hier soir sur Twitter.
C'est vrai.
À suivre, de vraies infos. Dans votre point santé, le docteur Ichou nous parle d'un algorithme révolutionnaire qui détecte le cancer du poumon avec plus de facilité que n'importe quel médecin.
Il est incroyable.
Je ne sais pas si vous parlez de Ichou ou de l'algorithme, mais dans les deux cas, vous avez raison.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Et nous faisons tout de suite un point sur la météo, ma chère Céline. Le ciel reste pluvieux sur la moitié ouest.
Oui, c'est vrai, ça toute la journée avec des averses soutenues cet après-midi sur les plaines toulousaines. Ce matin, c'est calme et ensoleillé sur l'est du pays, mais les nuages vont gagner du terrain avec des orages possibles dans la soirée entre la Lorraine et la Bourgogne. Soleil encore pour un petit quart sud-est cet après-midi, un vent de sud bien présent dans la vallée du Rhône et les Cévennes. Quant aux températures, elles baissent fortement à l'ouest après ce passage pluvieux. 15 à 19 degrés seulement pour cet après-midi. Ça reste très chaud sous le soleil à l'est, 25 à 33 degrés encore.
Merci Céline. Eva Rock, on fait un gros bisou à Guy Carlier.
Mais
ce matin.
Oui, notre ami a 70 ans aujourd'hui. On pense très fort à lui. Et à cette occasion, on voulait savoir pour vous quel était l'humoriste ou l'auteur qui a la plus belle plume. Eh bien, vous êtes
êtes très nombreux à nous répondre sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Caranoia qui nous dit qu'elle aime beaucoup l'écriture de Constance, de Blanche Gardin, évidemment, d'Alex Vizorek, d'Alexandre Assier, et puis d'un inconnu, Matthew Christmas. Je ne vois pas du tout qui c'est.
Certainement un humoriste américain.
Oui, et de François Rollin aussi, elle a rajouté.
Ah, oui, et puis, François Rollin qui a travaillé d'ailleurs avec Guy Carlier sur son dernier spectacle.
Exactement, exactement. Et puis Patrick, qui est agriculteur, vous savez, il produit des noisettes. Il nous a envoyé beaucoup de bons trucs à manger avec.
Oh, c'est lui, la pâte à tartiner.
Oui, la pâte à tartiner. Ah, on le remercie vraiment, pas d'Ange, mais lui, on le remercie beaucoup. Et il adore lire Alexandre Jardin. J'ai trouvé ça mignon, Alexandre Jardin, quand on est agriculteur. C'est drôle.
Ah oui, voilà. D'accord, je vois ce qu'il y a.
Moi, je ne suis pas Maurice, hein, excusez-moi.
Oui, non, ça c'est sûr. Voilà. Mais pourriez-vous lancer.
Vous continuez à réagir sur Twitter.
Sur un malentendu. Merci.
Avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre point santé. Bonjour docteur Marcel Hichoux.
Bonjour Mathieu.
Une équipe de la division recherche de Google a mis au point un logiciel capable de diagnostiquer le cancer du poumon avec plus de précision que des médecins. L'informatique serait-elle en train de concurrencer la médecine, Marcel Hichoux ?
Eh bien Mathieu, je vous ai souvent parlé de l'intelligence artificielle comme d'une avancée révolutionnaire dans le domaine de la santé.
Certes.
Les applications sont de plus en plus nombreuses et vont devenir un formidable outil de diagnostic banalisé. Dans le cas du travail de l'équipe de Google, publié dans Nature et Médecine, une revue prestigieuse, il s'agit d'un algorithme capable de réaliser toutes les étapes diagnostiques du cancer du poumon. La fiabilité de ce logiciel est nettement supérieure au radiologue le plus expérimenté.
Alors, quels bénéfices on peut attendre de cette application et comment l'expliquer ?
Eh bien, à partir du moment où le diagnostic est plus sûr, c'est moins de souffrance pour le malade, un espoir de guérison réellement augmenté et des économies. La clé de cette efficacité tient dans le deep learning.
L'apprentissage profond.
Le logiciel permet d'emmagasiner des centaines de millions de données grâce aux résultats de scanners qui ont détecté a posteriori des cancers avérés. La puissance des ordinateurs est telle que la machine a battu depuis 1996 le champion du monde d'échecs Garry Kasparov et qu'elle supplante maintenant les meilleurs radiologues. Pour autant, la machine ne va pas supprimer les médecins, mais augmenter considérablement leur capacité diagnostique.
L'alliance de l'homme et de la machine, c'est magnifique. À demain, Marcel, pour un nouveau point santé, 5h40.
Europe 1,
il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures qui ressemblent à s'y méprendre à un des plaisirs les plus grands que la vie nous offre.
Non mais sauf que t'as l'impression que ça monte, puis ça redescend. Ça remonte, ça redescend.
Oui, on va parler évidemment des montagnes russes. Hein. La comparaison est pertinente puisqu'en passant de l'info la plus rigoureuse à l'humour le plus leste, nous vous offrons chaque matin des sensations fortes. À suivre justement, mercredi les bons tuyaux, toute l'actu culture en cinémascope. Avec ce matin, mercredi oblige, Mathieu Charrier de retour de Cannes qui nous parle de l'événement ciné du jour, la sortie de la Palme d'Or, le prodigieux Parasite. Mercredi les bons tuyaux arrivent, mais d'abord un peu de musique. Boulevard des airs et Vianney. Allez, reste sur Europe 1 évidemment.
Il est 5h47, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, comment suivre la Coupe du Monde féminine de foot, même au bureau, discretos. Que penser de la Palme d'Or 2019 qui sort aujourd'hui en salle? Les réponses vous attendent bien au chaud dans Mercredi les bons tuyaux.
Il est 5h48, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn. Les conclusions d'un audit interne mené par Renault et Nissan, la marque aux losanges envisage de poursuivre son ancien patron. Gérard Larcher annonce une convention nationale de la droite et du centre pour octobre prochain. 3 jours après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, la droite fait cap sur les municipales pour espérer se relever. Enfin, les fans de tennis ont leur demi-finale rêvée de Roland-Garros. Rafael Nadal face à Roger Federer, ce sera vendredi. Hier en quart, Nadal a éliminé le japonais Nishikori. Federer a donc écarté son compatriote suisse Wawrinka.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 5 juin. Et à présent, Céline, c'est, vous le savez, ma grande passion.
L'amour.
Non, les courses hippiques. Et en tout bien tout honneur. Bonjour Guillaume Coves.
Bonjour Mathieu, la caravane du Tour de France des trotteurs pose ses valises à Laval pour la 6e étape du GNT. Jean-Michel Bazire, le patron du peloton, se remet au sulky de l'as Kalaska de Gaze. Si madame est bien lunée, elle va jouer à coup sûr les filles de l'air. Face à elle, le 13 Dream de Lasserie qui a signé 13 succès lors de ses 16 dernières sorties. S'il s'impose, il endossera le maillot jaune. Pour arbitrer ce duel, méfiance avec le 2 Colorado Blue qui s'entend à merveille avec Franck Nivard, avec le 9 Bolloise au fort, proche de son meilleur niveau, et enfin le 11 candidat d'Ortige. un modèle de régularité. Parmi les troubles faits, détachons le 12 Cristo, qui met toujours son cœur sur la piste, le 17 Azarodeva, intermittent mais doué, sans oublier le 15 Bad Boy du dollar à 8 ans. Il joue encore les francs-tireurs. Mon ticket pour la première course vers 13h50, l'As, le 10, le 2, le 9, et dans un second choix, le 11, le 12, le 16 et le 15.
Dis donc, j'ai regardé les pronostics de vos confrères, vous êtes un peu culotté de placer Kalaskat Guest devant Drine de Lasserie.
Bien au contraire, Mathieu. Jean-Michel Bazir et Kalaska de Guest, c'est un peu comme les justiciers milliardaires Jonathan et Jennifer. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire.
Merci beaucoup, Guillaume Coves.
Il est 5h50.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici mercredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Mathieu Charrier pour les sorties ciné et pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien, le tempétueux, le sanguin, l'impulsif, Clément Le Saff qui attend le mercredi avec impatience car il est lui aussi féru de cinéma, le 7e art, c'est ce qui l'excite, c'est ce qui le transcende.
Ça va Clément ? Wouh, la patate ce matin, je le sens.
Je le ciné, voilà.
Bon. Bon, il a une autre passion, c'est le foot féminin, alors il nous en parlera. Mais tout d'abord, quel honneur de retrouver le vice-chef adjoint délégué du service culture en personne, en chair et en os. Bonjour oui. Mathieu Charrier.
Bonjour, bonjour.
Mathieu, aujourd'hui vous commencez par nous conseiller ni plus ni moins que la Palme d'Or du dernier festival de Cannes qui sort en salle aujourd'hui, Parasite.
Exactement, du coréen Bong Joon-ho, Palme d'Or qui a fait l'unanimité dans le jury et dans la presse, c'est assez rare pour le souligner. Alors ça commence comme une chronique sociale, on est dans la famille de Kitae, qu'ils sont tous au chômage, survivent de petits boulots, notamment en pliant des boîtes de pizza. La famille vit d'ailleurs dans un appartement en sous-sol qui inonde lorsqu'il y a de fortes pluies, vous voyez l'ambiance. Mais Kitaek va être recruté pour donner des cours à la fille de la famille Park. Alors eux, vous imaginez, c'est l'opposé, une grande et magnifique maison moderne, un jardin impeccable, tondu au brin d'herbe près, ils sont tout minces, bien habillés. Et puis sa mère va se faire recruter aussi, et puis on va découvrir l'existence d'une pièce cachée chez les Park. Et puis, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, simplement que le film va alors évoluer vers une guerre de classe. Parasite est un mélange de films de genre, de thriller, de comédie sociale, de films d'horreur aussi, il y a quelques scènes un peu gore. Mais franchement, non, mais vous pouvez quand même y aller. Ça dure 2h15, vous ne les voyez pas passer. Et c'est aussi et surtout une belle porte d'entrée vers le cinéma coréen dont on parle trop peu. Parasite, donc, qui sort aujourd'hui dans les salles. N'hésitez pas à y aller, même en famille, avec des enfants à partir de 12-13 ans.
D'accord. Oui, c'est bien d'avoir la limite. Ouais. Parce que moi, mon fils, s'il y a du gore, il ne va pas aimer.
Non, votre fils, il est un petit peu jeune.
Vous vouliez aussi nous conseiller Mathieu Piranha, adapté du livre de Roberto Saviano.
Oui, vous savez qu'il avait fait Gomorra, vous vous en rappelez. Alors là,
en vrai que la bande-annonce, j'ai eu peur.
De ces baby gangs qui font régner la terreur dans certaines villes italiennes au nom de la mafia, la Camorra. Alors certains ont encore de l'acné, d'autres ont toujours besoin du petit bisou de leur maman pour bien commencer la journée. Et pourtant, le film débute sur le personnage de Nicolas. Il a une quinzaine d'années à peine. Nicolas, il aime s'amuser avec des pistolets, mais au départ en plastique. Et il assiste impuissant aux rackets organisés que subissent les commerçants de son quartier, notamment sa mère qui tient un petit pressing. Un jour, profitant de l'arrestation de certains caïds locaux, lui et ses copains vont prendre le pouvoir, littéralement. Ils apprennent à tirer, organisent des descentes punitives sur leur scooter rutilant jusqu'à leur premier meurtre et la descente aux enfers. Alors Piranha est une fiction, mais basée sur des faits bien réels. Le film a d'ailleurs été tourné dans les rues de Naples. Le réalisateur a casté 4000 jeunes Italiens pour sélectionner cette bande, ce qui donne encore plus de forme et de réalisme au film. Ça s'appelle donc Piranha. Deux beaux films.
Et vous nous le conseillez donc aussi.
Chaud d'abord et Piranha juste derrière.
D'accord. Merci beaucoup, je vous en prie. Mathieu Charrier, pour tous ces conseils. Le numérique à présent. La Coupe du Monde féminine de foot débute vendredi. Clément Le Saff, quels sont les sites et applis pour s'échauffer ?
Eh bien, c'est parti. La base, c'est d'aller faire un tour sur le site de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Le site était entièrement redécoré spécialement pour la Coupe du Monde féminine avec toutes les infos essentielles. Compo des groupes, calendrier des matchs, diffusion télé, il y a des matchs sur TF1 et sur le groupe Canal+. Il y a aussi des données très complètes sur chaque équipe avec son passé en Coupe du Monde, son parcours de qualification, ses stars. Et puis pour ceux qui veulent s'amuser, la FIFA a même conçu un petit jeu de pronostics. Il faut s'y essayer. Moi, j'ai mis la France vainqueur. Allez hop, on y croit.
Évidemment.
Alors le site se décline également en appli complètement gratuite pour pouvoir être au courant des résultats en temps réel. Il y a des alertes pour les buts, pour les compos, etc. Enfin, c'est vraiment hyper facile d'accès, hyper complet.
Et du côté des médias, où faut-il aller, Clément ?
Alors évidemment, sans doute, les médias vont beaucoup couvrir cet événement qui se passe en France, en particulier l'équipe, mais aussi Europe 1, qui va avoir une grosse couverture radio et web. Mais j'ai préféré ce matin vous parler de Foot d'Elle. C'est un média en ligne lancé en 2012, dédié exclusivement au foot féminin. C'est assez rare. Les journalistes couvrent d'ordinaire le championnat de France, la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais, le PSG, voilà, les grandes actus. Donc c'est très riche en contenu d'habitude, mais alors forcément avec la Coupe du Monde, c'est encore plus fort. Il y a beaucoup d'articles et d'analyses très fouillées, présentation des équipes de A à Z, ce qu'elles peuvent espérer pendant ce tournoi, le portrait des joueuses à suivre, un focus sur chacune des 23 bleus, c'est parfait pour faire connaissance avec elles. Il y a vraiment tout pour rattraper son retard si vous n'avez pas encore commencé. Et puis Foot d'elle sort aussi du rectangle vert pour parler de toutes les initiatives en faveur du développement du foot féminin. Ah, ça passe par des reportages auprès d'associations, des idées pour inciter les filles à tâter sans complexe du ballon rond dès leur plus jeune âge. Des portraits aussi de femmes engagées contre les préjugés sexistes qui sont malheureusement tenaces dans ce milieu. Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser au foot féminin à l'occasion de cette Coupe du Monde, Foot d'elle, c'est vraiment parfait pour se lancer.
Foot d'elle, on aura compris le jeu de mots. F-O-O-T.
Oui.
D apostrophe. L.
Exactement.
Mais L, dites-le, comment ça s'écrit sinon
E-L-L-E-S.
Ah voilà, sinon on pense que
Foot
c'est
d'elle.
Les L.
Les... Non, on ne pense pas ça, Eva, si on a compris le jeu de mots. Eva.
Eh bien, je vais vous parler d'un passionnant web documentaire qui t'a découvert sur la plateforme de France Télévisions Slash et qui est intitulé Survivre. 5 épisodes d'un quart d'heure pour partir à la rencontre de ceux qu'on appelle les survivalistes. Alors en France, ils sont quand même entre 100 000 et 150 000. Le chiffre de 4 millions est évoqué aux États-Unis. Tous se préparent au fait que quelque chose peut dérailler dans la société. Alors l'angoisse les ronge quand ils entendent parler de réchauffement climatique, de guerre civile, de terrorisme, de crise économique. Alors à chacun sa façon de réagir. Bernard, par exemple, il a 33 ans et il dort avec à côté de lui un sac à dos pour pouvoir partir d'urgence.
Un tapis de sol, de quoi s'abriter, une bâche, un sac de couchage, des repas tout prêts, lyophilisés, un filtre à eau, une gourde et un quart pour pouvoir le mettre sur le feu. Une scie pour couper du bois, un petit réchaud à bois.
Voilà, il a tout dans son sac à dos. Et puis voilà comment il se présente, Bernard.
Je suis prévoyant, que ce soit au quotidien ou des situations un peu plus rares. On appelle ça aujourd'hui survivaliste. Moi, je préfère le terme de prévoyant parce que ça me correspond plus, tout simplement.
Principal défaut de Bernard. C'est la question que je me pose, Alice, voilà. Sur le portage.
Il est adepte des armes à feu aussi, mais Bernard, il craint une rupture de l'état de droit. En fait, ce sont les émeutes en banlieue en 2005 qui l'ont choqué. Il a peur que la situation se reproduise. Le réalisateur Alexandre Pierrin pose surtout un regard très intelligent sur Bernard et les autres survivalistes de tout âge, toutes conditions sociales. Il tente de comprendre en fait vraiment la démarche et la façon dont ils réagissent pour se prémunir. Alors ça va de la construction d'une BAD, base autonome durable, à l'apprentissage de la vie en forêt, en passant par l'aménagement d'un sous-sol d'une maison. C'est passionnant parce que c'est pas du tout moqueur comme ton. Il essaye vraiment de comprendre la démarche de ces personnes. Ça s'appelle Survivre sur France TV Slash et c'est 5 épisodes.
Vous savez qu'en Suisse, on a toujours un coup d'avance question
oui,
survivaliste parce que chaque citoyen doit avoir un abri anti-atomique.
Et oui.
Moi, chez ma maman en Suisse, il y a un abri anti-atomique.
Vous avez transformé en cave à vin.
C'est un peu devenu une cave à vin, mais il y a toujours la grosse porte et le filtre à air. Merci Eva Roque, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain pour l'heure. Comme on dit dans le jargon radio au moment de passer à la séquence suivante.
5-4-3-2-1-0-5-4-3-2-1. Allez, on démoule.
Ça, c'est surtout Michael Charrier qui le dit, on ne dit pas tout ça.
Europe 1, c'est classe. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h02.
Céline Kalman. Il est 5h58, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline. Et dis donc, c'est un peu friscounet aujourd'hui.
Oui, dans le nord-ouest, hein, surtout 8 degrés du côté de Brest en ce moment. Il en fait 10 à Rennes, 11 à Nantes. Pour les autres, la moyenne est beaucoup plus douce, hein, 13 à 21 degrés. Il en fait 16 à Paris. Puis cet après-midi, ça baisse par rapport à hier. C'était prévu, surtout après le passage pluvieux. Et ça va surtout baisser à l'ouest. Hein, 15 à 19 degrés, ce sera la moyenne. Il en fera 17 à Paris, 25 à 33 degrés encore pour l'est du pays, là où le soleil va résister, on va le voir dans un instant. La maximale est pour Strasbourg ou Grenoble.
Côté ciel, c'est encore gris et pluvieux à l'ouest.
Oui, des pluies bien présentes ce matin des Ardennes jusqu'en Aquitaine. Quelques coups de tonnerre encore sont possibles. Plus calme mais bien nuageux dans le nord-ouest avec encore là aussi quelques gouttes. Là où ça va rester sec et ensoleillé, je vous le disais, c'est sur l'est du pays avec beaucoup de vent sur le sud-est dans la vallée du Rhône notamment. Et puis cet après-midi ça va rester pluvieux sur une moitié ouest jusqu'en Île-de-France en descendant vers le massif central. On aura des orages possibles sur l'est mais surtout en fin de journée, en début de soirée. Et puis le soleil va résister sur un petit quart sud-est et sur la Corse.
Merci Céline.
Europe 1 5h, 7h, Mathieu Noël.